France Inter. Le 18-20, Pierre Veil.
Et voici le téléphone sonne, une année nouvelle arrive, on réalise ce temps qui passe, ces années qui marquent l'histoire de l'humanité. Alors ce soir, on ouvre le dossier vertigineux des origines de l'homme avec notre invité qui répondra à toutes vos questions. C'est Pascal Pic, paléo-anthropologue au Collège de France, auteur de nombreux livres sur le sujet. Et là, il vient de publier chez Flammarion « Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité », tout un récit sur cette immensément longue histoire de la lignée humaine depuis 7 millions d'années. Pascal Pic, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de retrouver les auditeurs au standard, une question. Vous écrivez dans ce livre que toutes les certitudes sur les origines des premiers hommes vacillent en ce moment. Pourquoi ?
Vacillent, oui, d'un point de vue scientifique, nos modèles sont quand même bien établis. Mais il est très clair que pas mal d'idées que j'avais soutenues à une certaine époque, comme par exemple... J'avais dit il y a une vingtaine d'années, dans l'état actuel des connaissances que nous avions à l'époque, que pour que des hommes sortent d'Afrique, il fallait qu'ils soient de grande taille, et on pensait que c'était vers 1 million d'années. Et voilà que maintenant, on s'aperçoit que même avant ces grands hommes, nous sommes à 2 millions d'années, et nous avons donc un schéma qui à la fois s'étoffe à toutes les périodes des origines de la lignée humaine, mais il y a quelque chose de nouveau, dont on parle de plus en plus, c'est que du côté des vieux os, ça c'est mon domaine, comme celui d'Yves Coppens, c'est toute cette école française. Nous avons de plus en plus de découvertes. L'année dernière, 2019, une nouvelle espèce donc a été découverte sur l'île de Luzon, dans les Philippines. La préhistoire, qui avance énormément sur les outils, sur l'art préhistorique, mais maintenant, d'autres disciplines sont parmi nous et apportent des connaissances absolument vertigineuses, notamment la génétique, la paléogénétique, et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ça qui... fait osciller pas mal de convictions que nous avions. Par exemple, ce que nous sommes, nous les Homo sapiens, est fait de nos amours avec d'autres espèces qui ont communiqué des gènes, Néandertal, Denisova et peut-être d'autres.
Pascal Pic, cette fois-ci, c'est parti, au standard du téléphone sonne.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Premier appel, Yvon. Bonsoir Yvon, vous êtes à Auxerre.
Bonsoir. Merci d'avoir pris ma question. Une toute petite question. Au début de l'émission, vous avez dit à l'entête 7 millions d'années. Dites-moi, 7 millions d'années, c'est pas un petit peu beaucoup? Donc c'est la première question, mais ma question principale, c'est comment expliquer que toute lignée confondue, si c'est Sapiens, Néandertal, etc., dans le monde entier, je pense au fin fond de l'Afrique du Sud, je pense à Gibraltar, je pense à l'Asie ou je pense à l'Australie qui était complètement à part du reste du globe, comment des hommes ou des êtres ont pu inventer à la même époque les mêmes outils? Quand je parle de nos outils, je pense à l'aiguille à coudre qui fut une révolution. Donc comment des êtres humains complètement éloignés de dizaines de milliers de kilomètres ont pu inventer à la même époque les mêmes outils?
On va vous répondre, Yvon. Pascal Pic, d'abord, les 7 millions d'années que j'ai évoquées.
Oui, 7 millions d'années, si on pense à l'homme, c'est trop ancien. Mais ouais. 5 à 7 millions d'années, c'est tout à fait correct pour la séparation de la lignée qui va donner les hommes plus tard, la nôtre, et celle qui donnera les chimpanzés. Nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés, qui est daté de 5 à 7 millions d'années. Il y a quelques discussions autour de cela. Et donc, c'est à partir de là que notre famille, des grands singes qui marchent debout, qu'on appelle les hominidés, donc il y aura donc... Parmi les premiers de cette période-là, Toumaï, qu'on appelle Sahelanthropus, il y aura Rorin. Ensuite, toute la grande vague des Australopithèques, mais toujours en Afrique. Et vers 2,5 millions d'années, arrivent les premiers hommes qui, eux, vont se répartir sur l'Afrique, bien sûr, l'Europe et l'Asie.
Alors, ils vont nous demander comment se fait-il que des êtres humains qui ont inventé à la même époque, à des kilomètres de distance, des centaines de milliers, des milliers de kilomètres, les mêmes outils?
Non, pas tout à fait. Alors, par exemple, pour une période qui correspond à peut-être l'apogée de la technique de la taille de la pierre, qu'on appelle le solutréen en France, où là, évidemment, c'est une période où si on invente l'aiguille à tricoter, c'est cette période-là, eh bien, en Amérique du Nord, où les hommes sont déjà arrivés, les sapiens, donc, c'est-à-dire notre espèce, eh bien, ont des techniques qu'on appelle des cultures de Clovis et de Folsom, surtout celles de Clovis, qui, évidemment, présentent des similitudes techniques avec celles du solutréen en Europe. Alors, on a envisagé que des populations aient pu, par navigation, parce que c'est ce qu'on découvre dans ce livre aussi, les hommes naviguent depuis très longtemps, depuis 100 000 ans, auraient pu passer, comme l'ont fait les Vikings beaucoup plus tard, donc vers les Amériques. Sauf que ces techniques de taille qu'on la trouve en Amérique du Nord, mais là cette fois-ci c'est du côté vraiment de la côte ouest, on voit pas comment on n'en aurait pas sur la côte est si ça venait d'Europe. Et ça, c'est des questions qui ne traînent pas que dans le domaine de la préhistoire. Par exemple, le phénomène des pyramides entre les Mayas, entre les Khmers, entre les Égyptiens, ils se sont jamais rencontrés ces gens-là. Donc, c'est comme dans l'évolution, quand vous avez certaines contraintes techniques, eh bien, vous trouvez des convergences ou des parallélismes qui apportent des réponses qu'on n'appelle pas analogues, parce qu'elles ne sont pas sorties du même foyer, mais qu'on appelle homologues, c'est-à-dire qui apportent, comme l'adaptation au vol, si je peux me permettre, bien, vous avez les chauves-souris, vous avez les oiseaux, vous avez donc les animaux qui planent. Quand vous avez un ensemble de contraintes similaires, très souvent, on rencontre des réponses qui sont homologues. Voilà. Mais ces populations, donc, étaient indépendantes. Mais ce que j'explique dans le livre aussi, c'est la période donc du néolithique, l'apparition des agricultures. Ça, c'est fascinant parce que il y a 7 à 8 foyers reconnus pour l'instant d'invention des agricultures. Et là, je parle d'une période, et ça, c'est pas la tradition française, c'est plutôt la tradition de l'histoire allemande qu'on appelle la période axiale. Et comment expliquer que entre 1000 ans et 2000 ans avant Jésus-Christ, pour notre ère donc, soient apparus des grands systèmes de pensée dont nous sommes encore les héritiers? Donc nous, la pensée chrétienne, la pensée est bien sûr grecque, mais Confucius, évidemment l'hindouisme et aussi ces grandes civilisations amérindiennes que l'on néglige. Donc là, très bonne question parce que ce sont encore des sujets qui sont fascinants, qui ne sont pas encore complètement résolus.
Gilles est à Lyon et nous écoute et veut interroger Pascal Pic. Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Posez votre question et Pascal Pic va vous répondre.
Une question pour savoir, au sujet d'Homo sapiens, c'est bien 300 000 ans, n'est-ce pas?
Alors, sapiens, c'est au moins 300 000 ans, en effet, en Afrique.
Ma question principale, c'est de savoir, de connaître le point de vue de Pascal Pic sur l'évolution démographique de sapiens. Est-ce qu'il pense que le processus donc, de croissance qui est à l'œuvre depuis 300 000 ans, est-ce qu'il peut continuer jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce qu'il va s'arrêter? Et s'il s'arrête, est-ce qu'il s'arrêtera de lui-même? Ou est-ce qu'il y a il y aurait une volonté d'arrêt? Alors, s'il y avait un arrêt, à quel niveau d'effectif, selon lui?
Ah, Pascal Pic, c'est vrai que dans ce livre, vous analysez les phases de l'évolution humaine et vous parlez d'après 2050 et je vous ai lu, hein, vous n'êtes pas très optimiste.
Bah oui, c'est après 2050, les populations très âgées d'aujourd'hui ou de plus en plus âgées auront disparu. Il y a un très bon philosophe français qui est très peu connu, Christian Gudin, qui exerce à Montpellier, qui a écrit un très bon livre en tant que philosophe, qui s'intitulait « La fin de l'humanité ». Et lui se posait cette question. Bien sûr, nous avons cette grande inquiétude actuelle qui nous concerne, c'est toute l'actualité évidemment, sur l'avenir de la planète dans les 10-20 ans qui viennent, avec un accroissement encore de la population de 8 à 10 milliards donc d'individus. Mais il y a aussi un enjeu. Une fois que les grands aînés, sauf miracle, le transhumanisme, enfin, serions pour l'instant raisonnables, on ne sait pas si on pourra avoir une vitalité nécessaire pour maintenir à des effectifs bien moindres, bien évidemment. Il y a une caractéristique de l'espèce humaine que j'explique dans ce livre qui est assez peu connue et qui commence avec Homo, justement, le vrai genre humain qui apparaît en Afrique avec Homo erectus vers 2 millions d'années. Nous avons une caractéristique qui a modifié notre stratégie de reproduction. D'une part, le petit humain naît non pas immature comme on l'entend très souvent, mais c'est un gros bébé. C'est un gros bébé avec un gros cerveau. Mais il a une caractéristique, il va poursuivre sa croissance cérébrale comme s'il était in utero. Je m'explique. Chez les espèces les plus proches de nous, comme les chimpanzés, quand le petit naît, sa croissance cérébrale va continuer, mais d'une manière très très atténuée. Le petit humain va naître à 9 mois et après il va continuer à avoir une croissance cérébrale très forte. Et de là va s'installer une souplesse assez étonnante qui va permettre effectivement aux mamans peut-être de régler le temps du sevrage. Car l'allaitement, comme vous le savez, est la meilleure contraception. Et chez les espèces les plus proches de nous, chimpanzés, gorilles, orang-outans, le sevrage dure jusqu'à 4, 5, voire 6 ans. Eh bien, chez les populations humaines, il y a une possibilité d'arrêter le sevrage à 2 ou 3 ans. Et là, une étude de 2019 a montré que c'était pareil chez Néandertal. Les mamans arrêtent d'allaiter vers 2 ans ou 3 ans et peuvent reprendre plus rapidement une grossesse. Eh bien ça participe d'une souplesse et d'une réactivité très forte en termes de démographie, ce qui a permis à Homo, dès vers 2 millions d'années, d'occuper l'Afrique et ensuite, de plus en plus, l'Eurasie. Et aujourd'hui, on voit que, depuis l'invention des agricultures, croissez et multipliez, a été une politique des empires et des États qui nous amène à la situation actuelle.
Pascal Pic, je voulais prolonger la question de cet auditeur que nous avions en ligne à Lyon. Est-ce qu'on peut imaginer un effondrement démographique ? Est-ce que notre espèce est menacée ? On pourra peut-être arriver un jour au dernier homme ?
Notre espèce, non, elle se porte très bien. Nous sommes bientôt 8 milliards. La question est de savoir dans quel état notre espèce, avec quels effectifs, elle va arriver à l'horizon de 2050. Parce que depuis 2007, nous sommes arrivés dans une nouvelle ère de l'humanité, pour trois raisons. La première, la majorité de la population humaine est urbanisée, et ça va s'accentuer. Deuxièmement, c'est l'arrivée donc du smartphone. Et troisièmement, c'est l'intelligence artificielle dite nouvelle. Ces trois facteurs convergent, et c'est ce qu'on appelle les smart cities, pardon pour le terme, donc les cités ou les territoires connectés. Et donc nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'évolution humaine, avec de plus en plus de concentration, de connectivité et de relations. Et dans cette configuration, la possibilité d'un agent pathogène ou autre, comme c'est déjà arrivé, comme la Grande Peste de 1347, ou le choc entre les Amérindiens et les agents pathogènes des Européens en 1492, ça, aujourd'hui, pour l'instant, c'est bien maîtrisé, mais il y a tout à fait la possibilité, théorique, on le souhaite pas, que des virus ou nouveaux agents pathogènes liés à la découverte ou au contact, par exemple, Ebola est un bon exemple de d'agents pathogènes, de virus avec lesquels on n'a pas coévolué, puissent toucher donc de manière massive les populations humaines. Mais pour l'instant, l'OMS tient bien, la médecine tient bien. Donc il faut que nous soyons capables, et c'est l'objet de ce livre, de créer une humanité connectée, nouvelle, qui soit capable d'envisager une vie possible sur cette Terre à 7 milliards, 8 milliards d'individus.
Adèle est en ligne, elle nous appelle. Adèle, vous êtes sur l'antenne de France Inter avec Pascal Pic.
Bonjour, alors j'aurais aimé savoir d'où vient le premier homme et savoir si c'est un homme ou une femme. Merci.
Adèle, une très jeune auditrice de France Inter. Vous avez quel âge, Adèle ?
10 ans.
Très bien. Et ça vous passionne, cette histoire de l'humanité à travers des milliers d'années ?
Et plus tard, je voudrais être archéologue.
Ah bah parfait.
Parfait.
Pascal
Pic, on est content.
La question d'Adèle.
Ah ma chère Adèle, bien sûr, on nous raconte le premier homme, la première femme. C'est une façon de s'exprimer qui n'est pas très facile et qui n'est pas très claire et qui est complètement fausse pour dire les choses. Donc la philosophie, l'histoire, la théologie et même les scientifiques parlent du premier homme au singulier. Et on oublie toujours les femmes. D'ailleurs, je rappelle que dans ce livre, il y a tout un passage sur l'évolution des femmes qui a toujours été constamment oublié. Et ma chère Adèle, il faut comprendre que les hommes et les femmes, c'est toujours des populations. Il y a toujours des hommes, des mâles, des femmes, comme Lucie l'Australopithèque. Ben, Lucie était parmi d'autres femelles australopithèques et il y avait d'autres mâles australopithèques que je vais appeler par facilité les Luciens. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours des populations. C'est pas un individu, un homme ou une femme. C'est pas Adam et Ève, même si c'est une très belle histoire. Mais ça, nous sommes dans le monde des religions et des mythes. Ce sont toujours donc des populations et les premiers hommes et les premières femmes arrive en Afrique entre 2 millions et 3 millions d'années, 2 et 3 millions d'années, ça fait beaucoup pour toi. Hein. T'imagines d'avoir 2 millions dans ta tirelire, ça serait formidable, 2 millions d'euros. Mais il y a 2 millions d'années, donc les hommes et les femmes émergent depuis des populations de mâles et de femelles, on va faire simple, d'Australopithèque.
Pierre est dans l'Oise, bonsoir Pierre.
Allô, bonsoir. Oui, je vous appelle, j'ai une question. Est-ce que l'homme moderne sapiens sapiens s'est croisé avec l'homme de Néandertal en Europe? Et est-ce que ses descendants ont pu être fertiles? Parce qu'il y aurait 4% de gènes pour certains Européens, voilà.
Très bonne question, et on l'évoquait en préambule avec Pierre Vell, la paléogénétique aujourd'hui est en train de nous apporter énormément d'informations. Alors, comme l'a dit un auditeur tout à l'heure, les origines de Sapiens, c'est en Afrique. On a les fossiles, la génétique le confirme, et également les études sur la linguistique. Donc l'homme moderne, Sapiens, vient d'Afrique. Après ça, il y a eu plusieurs vagues qui sont sorties d'Afrique. Au moins trois dans l'état actuel des connaissances, comme c'est évoqué donc dans le livre. Maintenant, Sapiens va sortir d'Afrique. Il est déjà installé depuis longtemps d'ailleurs, découvert de 2019 également, dans le sud du Proche-Orient et la péninsule arabique. Mais il va avoir du mal à progresser au nord. Pour quelle raison ? Eh bien, il y a une autre espèce qui est très bien installée, vous l'avez citée, ce sont les Néandertaliens. Et les Néandertaliens sont étendus de l'Europe, on le sait maintenant, jusqu'en Sibérie. Mais nous allons nous rencontrer. Et dans des régions telles que le corridor de la mer Noire, par exemple, des populations anciennes de Néandertal et de Sapiens vont avoir des relations amoureuses et nous allons avoir des transferts de gènes. Mais il y a plus que ça. Il y a 10 ans exactement, nos collègues russes ont découvert une nouvelle espèce. On ne connaît que 12 ossements ou dents. Ça s'appelle les hommes et les femmes de Denisova. C'est dans l'Altaï, c'est le sud de la Sibérie, c'est l'Extrême-Asie. Et l'ADN qui en a été extrait nous montre que c'est une autre espèce. Donc, il faut savoir, je reprends le schéma, suivez-moi bien. Les sapiens sortent d'Afrique. La vague qui sort vers 200 000 ans va rencontrer des sapiens plus archaïques et va avoir des gènes partagés avec des sapiens installés depuis plus longtemps. Première zone d'hybridation. Ça va s'hybrider aussi dans le corridor de la mer Noire, mais en allant vers l'Est, ben les Néandertaliens vont aussi s'hybrider en partie avec les Denisoviens. Et quand nous, les sapiens, nous allons arriver dans le coin, nous allons aussi nous hybrider avec les Denisoviens. Ce qui veut dire que, pour nous, depuis l'Europe, quand vous partez de l'Europe occidentale et que vous allez vers l'Asie orientale, le taux de gènes, ou d'ADN plutôt, pour être précis, de Néandertal augmente de 1,6% à 4%. Je vous donne une anecdote. Vous connaissez l'auteur Bernard Werber, l'auteur des fourmis.
Oui.
Il me raconte, alors, nous étions ensemble dans un salon du livre, il me dit, tu te rends compte Pascal, j'ai 2,7 d'ADN de Néandertal. Il me dit, tu crois que je suis européen? Et je dis, non, à mon avis, t'es européen, mais tu dois avoir des ancêtres qui viennent de l'Ukraine. Il dit, oui, t'as raison. Pourquoi? Parce que nous, en Europe occidentale, nous avons entre 1,6 et 2,1% d'ADN de Néandertal. Et plus vous allez vers l'Est, pardonnez-moi, je bégaye, vous avez de l'ADN de Néandertal. Mais maintenant, les populations de sapiens qui ont rencontré les Denisoviens se sont aussi hybridées. Ce qui veut dire que vous avez de l'ADN de Denisova qui est de plus en plus important quand vous allez du Tibet, du plateau donc tibétain, vers l'ex-Indochine et chez les Papous et les Aborigènes. Donc, et tout ceci nous donne des caractères dont certaines maladies aujourd'hui nous viennent des échanges avec Néandertal ou certains bons caractères comme la peau blanche et par exemple la capacité des Sherpas ou des Han de respirer l'oxygène raréfié en haute altitude. Eh bien, vient de leurs amours avec, donc, avec Daniel Sava. Donc, le livre raconte tous ces méthylpotes. Nous avons, en fait, nous-mêmes, la diversité humaine actuelle est faite de 4 ou 5 foyers d'hybridation avec d'autres espèces humaines qui étaient contemporaines.
Pendant que vous parlez, Pascal Pic, des courriels sur le site de l'émission franceinter.fr, Jean-Claude, il nous écrit, l'Homo sapiens moderne est donc le résultat d'un métissage de toutes les espèces qui ont cohabité pendant des milliers d'années.
C'est pas un mélange. Nous avons capté que quelques caractères génétiques. C'est ce qu'on appelle l'introgression. J'ai pas répondu à une des questions de notre auditeur. Est-ce que les hybrides ont survécu? Eh bien, on s'aperçoit que quand deux espèces qui se sont séparées depuis peu de temps ont des populations qui se rencontrent, où là, les transferts génétiques peuvent se faire, eh bien, on s'aperçoit que l'espèce qui va disparaître, en l'occurrence c'est Néandertal, les hybrides ne sont pas viables. Et on voit d'ailleurs une détérioration, ce sont les paléogénéticiens qui nous le disent, une détérioration de la qualité la fécondité des mâles néandertaliens. Et dans ce cas-là, évidemment, ça passe plus par les femmes. Et en l'occurrence, on voit que sur la femme néandertale, il y a une perte de fécondité des néandertaliens. Par contre, les hybrides qui vont plus ou moins survivre sont ceux qui vont être élevés et qui vont être plus proches des sapiens.
Anne à Strasbourg, elle nous écrit « L'homo sapiens s'est imposé progressivement sur Terre comme l'espèce d'homme dominante. Mmh. Comment et pourquoi ?»
Alors, il y a un ensemble de facteurs, bien évidemment. D'abord, attendez, rendez-vous compte, nous avons fréquenté les Néandertaliens et certainement les Denisoviens pendant plus de 50 000 ans. Je rappelle que les agricultures, ça fait que 10 000 ans. L'histoire, 8 000 ans. Donc 50 000 ans, c'est quand même une sacrée période. Bien tout simplement parce que nous aurions eu la capacité, là, voilà, téléphone sonne, coup de baguette magique, nous retournons il y a 50 000 ans sur cette terre. Eh bien, il y avait les sapiens, c'est-à-dire nous bien sûr, sur l'Afrique et le sud du Proche-Orient, Néandertal, je l'ai dit, sur l'Europe jusqu'en Sibérie, et les Denisoviens. Personne ne prenait le pas sur qui que ce soit. Nous avions globalement des sociétés de chasseurs-collecteurs qui avaient des niveaux de technologie, pas tout à fait les mêmes, mais quand je dis niveau, c'est complètement faux, faut pas hiérarchiser. Ils avaient donc des capacités d'adaptation qui fait que, bien sûr, ça bougeait, sans contre-penchant, mais personne ne prenait le pas sur personne. Ce qui va changer, c'est justement l'apparition de l'homme moderne, le sapiens sapiens, comme ça a été dit, qui, lui, va avoir de nouvelles représentations du monde, de nouvelles conceptions du rapport à la nature, de nouvelles stratégies d'exploitation. Ceci ne va pas être fulgurant, petit à petit, c'est une relation d'économie qui va faire que nous, les hommes modernes, comme on les appelle, nous allons de plus en plus prendre le pas sur les autres. Il y a peut-être eu des maladies, il y a peut-être eu évidemment des conflits, mais les traces de morts violentes sont extrêmement rares. Et que par ailleurs, pour que des épidémies puissent se diffuser comme les grandes épidémies qu'on a connues dans l'histoire, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes, des centaines de millions de personnes, et que ça circule très vite. C'est pas le cas à l'époque. C'est très fragmenté. Donc c'est en fait une longue rivalité économique qui fait que petit à petit, on voit les sapiens prendre les places en Europe, c'est bien étudié, la place des Néandertaliens qui vont finir par quitter la scène.
À Marseille, Alain écoute France Inter, ce qui est formidable, et le téléphone sonne. Alain, vous êtes sur l'antenne.
Bonsoir monsieur, votre émission est extraordinaire et formidable. D'abord, meilleur vœu de santé, vous en avez besoin. Et ma question est la suivante. Que sont devenues les recherches sur l'homme du Toulonde qui a été découvert, je crois, ou en Suède ou en Norvège, un homme préhistorique de l'âge du fer, très bien habillé, avec un carquois, des flèches, des chaussures en peau, et on n'a plus entendu parler du résultat des recherches. Est-ce que vous pourriez me donner des nouvelles ?
Alors, c'est le fameux homme de Otzi qui a été découvert, enfin qui a été livré par un glacier il y a maintenant une quinzaine d'années. D'ailleurs, un glacier qui est autrichien et qui a un pied en Italie. Alors, il est intéressant parce que cet homme Otzi du néolithique, il est d'une période quand même qui a été longtemps un petit peu négligée dans la tradition académique française. Aujourd'hui, on a une très belle école. Et il montre justement qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population dans cette période qu'on appelle la proto-histoire, c'est-à-dire donc au moment où vont arriver les agricultures et les premiers âges des métaux donc en Europe. Par exemple, la majorité des gènes des populations d'Europe occidentale, ce qui nous concerne donc directement, il y a eu une première vague qui est arrivée au Proche-Orient 6000 ans avant Jésus-Christ avec les agriculteurs du Proche-Orient. Après ça, une deuxième grande vague est venue cette fois-ci des plaines d'Ukraine ou d'Europe centrale avec des peuples d'éleveurs. Et regardez les conséquences encore aujourd'hui au cinéma, vous allez me comprendre. Eh bien, aujourd'hui, la majorité des gènes qui sont liés à cet apport du Proche-Orient des peuples agriculteurs, ces gènes sont dominants pour les populations du Sud, donc la France et l'Italie. Par contre, au Nord, où sont arrivés les éleveurs, vous avez une plus grande proportion de gènes qui viennent des éleveurs. Or, ça c'est important, ça c'est un des éléments forts du livre, c'est que on avait, après l'école, certainement vous en souvenez, cher Pierre Veil, que grâce à la culture, eh bien, nous étions libérés de la lenteur de l'adaptation des gènes. Eh bien, la coévolution qui est au cœur de ce livre nous explique que nos choix culturels et ceux de nos ancêtres sélectionnent leurs gènes et leurs expressions. Et le fait de pouvoir diriger le lait, oui. Oh, pardon, oui. J'ai trop d'agapes, hein. De digérer le lait ou pas, ben, ce sont des facteurs évidemment sélectifs sur la prime enfance. Et quand vous regardez un film du sud de l'Europe, le soir, les gens dans une scène, eh bien, ils boivent un alcool. Dans le nord de l'Europe, ils boivent un verre de lait. Pourquoi ? Ben parce que c'est un héritage direct. Nous, on ne peut pas boire le lait comme cela. Eh bien, les gènes de Cro-Magnon, on les a perdus. Ils sont vraiment dilués. Ceux des Celtes, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, vous voyez comme la proto-histoire et cet homme d'Otzi que vous évoquez, cher monsieur, eh bien, nous apportaient de précieuses informations sur ces mouvements de population dont nous sommes les héritiers directs et qui expliquent une partie de nos adaptations encore présentes.
Notre invité ce soir au téléphone sonne, c'est Pascal Pic, paléo-anthropologue au Collège de France, qui publie chez Flammarion ce Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité. Claude Etanis est patiente depuis un bon moment. Pardon Claude, c'est à vous maintenant, vous êtes sur l'antenne. Claude.
Oui, je voulais poser la question suivante. Quelle est l'importance de des inversions magnétiques sur les évolutions de l'homme depuis l'Homo erectus jusqu'au Sapiens? Et puis je voulais aussi dire un mot sur le fait que aujourd'hui la population humaine croît de 50% tous les 25 ans et que ça c'est une situation pour lesquelles l'homme se montre incapable de prendre les dispositions nécessaires à sa survie.
Pascal Pic, réaction ?
Alors, en ce qui concerne les alternances des pôles magnétiques, non, ça n'a pas eu d'influence sur l'évolution de la lignée humaine. Par contre, ça nous sert beaucoup pour des périodes anciennes, pour dater les fossiles et les couches archéologiques. Parce que quand les volcans rentrent en éruption, il y a certains cristaux qui s'orientent en fonction du champ magnétique de l'époque, et ces alternances nous donnent une espèce de code-barre qui permettent de dater les fossiles, mais ça n'a pas influencé l'évolution biologique de l'homme. Quant à la démographie, vous savez, il y a quelque chose qui est troublant. Évidemment, on peut penser à des volontés natalistes ou pas, mais ça n'a jamais fonctionné, ni dans un sens, ni dans l'autre. Pourquoi les peuples décident de faire des enfants ou pas? Ça, c'est quelque chose à laquelle l'anthropologie a vraiment beaucoup de difficultés à répondre. Aujourd'hui, la Chine, avec 1 milliard 300 millions d'individus, voire 400 peut-être maintenant, essaye de revenir, et pourtant c'est un gouvernement qui sait imposer ses décisions, essaye de revenir à une politique plus nataliste. Eh bien, ça ne marche pas. Pour des raisons qu'on ignore encore, qui ne sont pas vraiment bien élucidées en anthropologie, nous constatons que quand des populations cessent de faire des enfants, elles ne reviennent jamais vers une politique nataliste. Pour quelle raison? Quels sont les mécanismes? Pour l'instant, moi, je ne les connais pas. Et aujourd'hui, les populations de l'hémisphère nord est en train de décroître rapidement. Regardez sur l'Europe de l'Est, regardez sur l'Italie, l'Espagne. Les seules régions du monde où ça continue, c'est l'hémisphère sud. Donc, vous voyez, on ne sait pas où on va. Franchement, on ne sait pas où on va. Et quelle politique appliquer? Aucune n'a jamais fonctionné.
Pascal Pic, si vous le pouvez, faites-nous des réponses complètes, mais pas trop longues, parce qu'il y a vraiment de
ça
nombreuses questions sur le site de l'émission et au standard. Par exemple, Michel, qui est à Royan, il nous écrit sur le site « Qui occupait le territoire français il y a 1 million d'années ?»
Eh bien, il y avait des populations d'Homo erectus tardif. Là, c'est plutôt les populations qui vont donner les Néandertaliens, mais quand même, vers 800 000 ans, on a des populations en Espagne ou autres qui sont encore assez mal définies à l'heure actuelle, qui sont vraiment des hommes. Les hommes arrivent en Europe occidentale vers 1 million 2, ça c'est clair, certainement avant. Alors, on les appelle Homo erectus par commodité, mais ils sont ni sapiens et pas encore Néandertaliens.
Au standard, Jean-François. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
C'est à vous. Allez-y, Pascal Pic.
Bonsoir à tous.
Attends votre question.
Bonsoir à tous. Meilleur vœu quand même, on va profiter.
Bien sûr, mais...
bonne
année.
Merci. Je suis donc dans le Bacercis, dans un anneau global, où on a retrouvé pas mal de traces néandertales, dont la superbe grotte de Bruniquel. Ouais. On a vu que l'homme néandertal était quand même sensible à l'art. Et donc, on parlait beaucoup d'échanges génétiques entre nos deux espèces, mais est-ce que vous arrivez à déterminer, à voir également des échanges au niveau des techniques culturelles entre ces deux espèces qui ont quand même cohabité pendant un certain temps? Oui. Et est-ce que peut-être Néandertal a disparu par manque de technique? Voilà. Ben, je vous remercie.
On va vous répondre.
Non, Néandertal n'a pas disparu par manque de technique. Ça a été longtemps une longue hypothèse qui était liée à cette idée que Sapiens, c'est nous sommes les derniers survivants, forcément nous étions intrinsèquement meilleurs. Non, il y a beaucoup de circonstances qui ont participé. Maintenant, Bruniquel, c'est un très joli site, évidemment dans le sud de la France, du côté des Pyrénées. Et récemment, enfin il y a quelques années, on s'est aperçu que les Néandertaliens avaient donné un lissoir. Donc c'est un lissoir, c'est quoi? C'est une côte de bovidé, donc de bœuf si vous préférez, qui a servi donc à travailler les peaux. Alors d'emblée, on a dit, ah ben non, c'était des Cro-Magnons. Cro-Magnons, c'est Sapiens en fait. Pas du tout. Il y a eu bien sûr échange de gènes et échange de techniques, bien évidemment. Donc il y a eu hybridation, il y a aussi acculturation. Donc nous devons aussi certainement en partie notre succès à des échanges techniques avec les Néandertaliens.
Sur le site, une question de Mireille. Elle nous demande, c'est une bonne question, notre morphologie peut-elle changer dans 500 ans ou 1000 ans?
Oh, même plus vite, hein. Ça peut aller très vite. Regardez, moi je suis un baby boomer dans toute sa splendeur, pardonnez-moi. Oui. Et comment on aurait pu imaginer? Et c'est ça le cœur de l'évolution humaine, c'est ça qui fait l'évolution humaine et c'est ça que j'explique depuis 1 million d'années. Nous sommes des espèces, nous les humains, pas que sapiens, incroyablement plastiques. Ce qui veut dire qu'on peut changer très vite morphologiquement, la taille et la forme. On peut changer très vite en termes de physiologie et très vite en termes de capacité cognitive. Et ma génération, des baby boomers, qui est un peu décriée en ce moment, je dois dire, elle a gagné 25 ans d'espérance de vie et nos gènes n'ont pas changé. On a gagné 10 à 15 centimètres de taille corporelle. On a gagné une activité physique et affective qu'on n'aurait jamais imaginée. Aujourd'hui, on parle des... pardonnez-moi, je vais être un petit peu, non pas grivois, mais les Raging... vous vous souvenez, on parlait à propos des Rolling Stones, des Raging Sixties. Bon, aujourd'hui, qui aurait pensé il y a 50 ans qu'il y aurait une sexualité des seniors? Donc, et tout ceci était inimaginable il y a encore un siècle. Donc, on ne peut pas savoir comment nous allons évoluer, sauf que, ça je peux vous le dire, on peut changer extrêmement vite, c'était le cas pour ma génération, c'était le cas pour l'homo, selon les différentes périodes et les contextes culturels et techniques dans lesquels nous sommes aussi.
Nour à Besançon, bonsoir Nour. Est-ce que Nour est en ligne avec nous? Je ne l'entends pas, ça ne fonctionne pas. Alors on va aller au standard, un autre appel. Dites-moi si je peux joindre Jean qui souhaitait interroger Pascal Pic. Jean est en Bretagne, il est là Jean?
Oui. Oui, oui.
C'est à vous, Jean. Bienvenue.
Oui, merci. Bonne fête. Bonne année à vous.
À vous aussi.
Et à vos invités.
Merci.
Voilà. Oui, il y a une dizaine d'années, nous étions, disons, au paléolithique, néolithique, même avant l'archéo ou l'archéolithique, je crois. Il y a eu de très grandes périodes de réchauffement climatique et de refroidissement. Quels étaient les écarts de température supportables pour les hommes? Enfin, les gens qui vivaient à cette époque, les êtres qui vivaient à cette époque, et comment faisaient-ils pour supporter, disons, ces très grands écarts de température?
Pascal Pic.
Eh bien, là aussi, une étude très récente, 2019, sur des enfants néandertaliens, qui montre que pendant les hivers, qui n'étaient pas ceux que nous avons, bien évidemment, les enfants avaient des stress absolument considérables. Ça se voit sur les dents. Hein. Vous savez que quand on coupe un tronc d'arbre, on voit les périodes de sécheresse ou les périodes d'humidité. Eh bien, c'est la même chose pour notre physiologie. Donc, les dents, dans leur émail, conservent les traces de périodes qui sont plus favorables ou qui sont plus stressantes pendant notre vie. Et ces études montrent qu'en effet, monsieur a raison, c'était des périodes très compliquées. Mais attendez, ils étaient capables quand même de survivre dans des périodes où il faisait moins 30, moins 40 degrés pendant l'hiver. Après, évidemment, venaient des périodes plus clémentes. Donc ça, c'est une caractéristique de l'homme qui s'adapte à la fois par sa physiologie extraordinaire, mais aussi par les vêtements, par la culture haute. Mais j'aime bien citer l'exemple des Fuégiens, les habitants de la Terre de Feu qui ont tous disparu. Une des grandes surprises de Charles Darwin et de tous les explorateurs du 19e siècle qui sont passés par là, c'est qu'ils vivaient carrément nus. Ben, ils se couvraient le corps donc de graisse, ils avaient de grands manteaux parce qu'il fallait éviter que l'humidité ne s'accumule sur le corps, ce qui aurait été évidemment très dommageable pour leur santé. Et donc voilà, c'est pas que les fourrures, les populations humaines néandertaliennes, mais on les connaît pas bien, mais de Cro-Magnon aussi et les Denisoviens certainement, avaient inventé différents types de techniques et de procédés qui leur permettaient de résister à cette température quand même extrême. Et ça c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a que les humains qui ont été capables de faire cela quand même.
On a récupéré Nour à Besançon, bonsoir. Nour, est-ce que vous êtes là? Ça ne marche pas, on n'a pas de chance avec lui. Alors j'ai des questions, alors là sur le site de l'émission, j'aime autant vous dire, Pascal Pic, il y a de quoi faire. Cette question tout à fait passionnante, c'est vrai, et elle vient de Jacqueline. La viande, la viande a-t-elle toujours été présente dans l'évolution de l'homme?
Bien sûr, oui. Elle a même été très présente. Une bonne raison à cela, c'est que déjà en Afrique, d'où viennent les premiers hommes, pendant la saison sèche, vous avez deux options. Ou aller chercher des nourritures beaucoup plus végétales et coriaces en tapant les parties souterraines des plantes. Ça, c'était la stratégie des Australopithèques. Ou vous allez chercher, ce qui est aussi pas mal abondant pendant la saison sèche, plus de protéines, donc animales. Donc, chez les premiers hommes, il y avait de la chasse, mais aussi du charognage. Mais ce qui est intéressant, c'est que la viande est la seule nourriture que vous trouvez en toute saison, sous toutes les latitudes. C'est ça qui est passionnant. Et à partir de là, donc, avec la cuisson qui joue un rôle considérable dans cette affaire-là, bien évidemment, donc les outils pour débiter les carcasses, bientôt des hommes de grande taille qui inventent des armes dédiées à la chasse, et également la capacité donc de traquer des grands animaux, parce que là aussi, il faut oublier l'idée un peu iréniste de l'homme qui arrive dans la savane et qui se fait bouffer par tout le monde. Au contraire, il a écarté tous les autres. Les hommes ont une puissance écologique déjà depuis 2 millions d'années qui a eu un impact sur la biodiversité, il faut être très clair, notamment les grandes faunes. Et donc, elle a participé à tout cela. Maintenant, faut pas croire qu'il n'était que carnivore. Même encore des études très récentes montrent que même les Néandertaliens, qui étaient sous de hautes latitudes, avaient recours à l'alimentation végétale. Et aujourd'hui, les études comparées montrent que plus vous êtes vers le sud de l'hémisphère nord, bien sûr, eh bien, plus la part végétale est importante, et c'est 25%, 30% de viande. Mais plus vous allez vers le nord, eh bien, vous avez plus de nourriture sur pâte que sur racine, et bien évidemment, la part de l'alimentation carnée est plus importante. Mais la viande a toujours été au cœur, évidemment, de l'adaptation et de l'évolution de la ligne humaine.
En Normandie, Gabriel est avec nous. Bonsoir, Gabriel.
Bonsoir.
Allez-y, vous êtes sur l'antenne et Pascal Pic attend votre question.
Bonsoir Pascal Pic, nous nous connaissons, Gabriel, je suis en Normandie. J'ai une question très très simple et hélas tragique. Est-ce que Sapiens, en détruisant les autres espèces, n'est pas en train de courir à sa perte ?
Claude Lévi-Strauss dit à peu près ceci. Ainsi l'homme s'est mis sur un pied d'égalité avec les autres espèces qui s'est employé à exterminer et qui continue à exterminer. Car ce que ce livre explique aussi, c'est qu'une espèce n'évolue pas seule. Nous coévoluons. Nous coévoluons avec les espèces qui nous entourent et notamment les infimes micro-organismes ou autres, et une partie de ce que nous sommes, de notre coévolution, de notre système immunologique, de notre capacité de nous défendre, vient de cette coévolution. Et plus nous détruisons l'environnement, plus nous détruisons donc ce qui a été co-construit pendant des centaines de milliers d'années, et en définitive, atteindre aux écosystèmes et à la biodiversité, c'est mettre en danger les possibilités de l'adaptation des générations futures. Ça, c'est très clair. C'est pas un plaidoyer écologique, naïf, rousseauiste. C'est une réalité scientifique.
L'évolution des mots qu'on entend ce soir à la radio, Jean-Maurice nous demande, voilà, que sait-on de l'évolution, de l'apparition du langage chez l'être humain ?
Eh bien, le langage est très ancien parce que Homo erectus, il y a 2 millions d'années, bon, déjà, par exemple, les chimpanzés utilisent beaucoup de termes, ils ont des communications symboliques extrêmement complexes. Donc, les chimpanzés, on s'est séparés d'eux depuis longtemps. Venons-en aux premiers hommes. La manière de fabriquer un très bel outil qu'on appelle un biface, qui est symétrique. Eh bien, mes collègues préhistoriens ont reconstitué la manière dont la séquence des gestes amène à faire ce magnifique outil. Ce qu'on appelle une chaîne opératoire. Eh bien, cette chaîne opératoire est exactement la même sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur le plan de la réalisation mentale, de la manière dont nous construisons une phrase, avec ses récursivités, etc. Donc aujourd'hui, et c'est ça des apports de l'anthropologie moderne, c'est que les préhistoriens, les généticiens, les paléanthropologues sont capables aujourd'hui d'intégrer toutes ces connaissances et d'en faire ressortir des scénarios de plus en plus plausibles et vraiment réels. Donc le langage, la capacité d'avoir une capacité de diction par rapport au monde, donc c'est le langage est symbolique, eh bien existe depuis au moins 2 millions d'années. Évidemment, ce qui précède était déjà antérieur. Pardon, c'est une palissade. Mais c'est pas apparu comme ça. C'est pas d'un seul coup, il y a eu le verbe. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces outils ont aussi une valeur symbolique. Donc, on a tout un ensemble d'éléments qui montrent que le langage, effectivement, c'est au moins 2 millions d'années. Et aujourd'hui, pour des périodes plus récentes, on reconstitue les origines de Sapiens grâce à la comparaison des langues. Mais ça, c'est pour des périodes plus récentes. Et une fois de plus, c'est l'Afrique.
Ce courriel d'Anaïs à Bordeaux, vous dites, Pascal Pic, que Sapiens a migré vers le nord, a quitté l'Afrique. Mais pouvez-vous nous décrire la façon dont s'effectue cette migration? Sapiens marchait jusqu'à l'épuisement.
Oh, bien sûr que non. Attendez, c'est une bête inépuisable, Sapiens. Nous sommes les animaux les plus endurants qui ont jamais existé. Bon, rapidement alors. Homo, 2 millions d'années en Afrique. Une bipédie extraordinaire qui est la vôtre, qui est la mienne, qui est celle de nous autres. Nous sommes pas rapides, mais une endurance exceptionnelle. Même les chevaux ne peuvent pas nous tenir sur 3 jours. Ça, on l'a complètement oublié. Donc, ils vont sortir, poussés évidemment par les changements climatiques, mais aussi de leur propre volonté. C'est là que le langage, le feu et les techniques vont participer de leur adaptation dans de nouveaux écosystèmes. Donc on sort vers, Homo sort vers 1 million d'années. Ensuite, on ne sait pas trop comment ça se passe entre 1,5 million d'années et 500 000 ans. Vous avez cette figure qu'on a évoquée ensuite vers la fin de la préhistoire, Sapiens, Afrique, sud du Proche-Orient. Néandertal, je me répète, mais c'est important, Europe, ouais. Jusqu'en Sibérie, et Denisova sur l'extrême Asie. Et voilà qu'arrive l'homme moderne, Sapiens, 2 millions d'années. Et lui, il navigue. Il va sortir en plusieurs vagues, et très rapidement, il va buter au nord sur Néandertal et Denisova. Il va naviguer, et rendez-vous compte, il va être en Australie, traverser les mers, et même peut-être l'Amérique du Sud, avant d'être en Europe où Néandertal le bloque. Donc nous avons quelque chose dans notre tête qui fait que nous sommes dans la volonté, non pas par l'épuisement, d'aller au-delà de l'horizon. Nous sommes des conquérants.
Merci Pascal Pic d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Je rappelle ce livre paru chez Flammarion, Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité. Merci beaucoup.
Merci Pierre-Yves.